On est parti pour une nouvelle édition des Artistes ont la parole, n'est-ce pas Charlie?
Tout à fait, avec un invité, et je dirais exceptionnel.
Oui.
C'est un invité que je comparerais à un couteau suisse, parce qu'il sait tout faire, ou presque tout,
ouais.
Mais en tout cas, il fait énormément de choses, en plus il le fait très bien, avec du succès, et je suis très très heureux de l'accueillir dans les Artistes ont la parole.
C'est magnifique, on en parle tout de suite, mais... On va peut-être envoyer le générique, qu'est-ce que vous en pensez?
On y va.
Allez, c'est parti pour le générique.
Les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole. Michel Berger.
Bonjour les filles.
Bonjour Charlie.
Les artistes ont la parole, bonjour à vous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans la joie et dans la bonne humeur. Nous allons parler, vous l'avez compris, théâtre avec l'invité d'honneur de cette semaine sur le réseau national et international des artistes ont la parole, Daniel Mesguich pour l'Arlésienne, et Charlie est à mes côtés. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Et bienvenue à bord dans cette émission. C'est un honneur de vous recevoir. Pour ne rien vous cacher, en préparant cette émission, Charlie et moi, en salle de rédaction, on s'est posé cette question. Est-ce qu'on le vouvoie? Est-ce qu'on le tutoie? On s'est posé franchement cette question. Quand on voit votre parcours, on n'a qu'une seule envie, c'est de vous voyer. Mais vouvoiement de respect. C'est important de le souligner. C'est vrai, Charlie, il sait tout faire, Daniel Mesguich.
Il sait tout faire, il sait écrire, il sait jouer, il fait du théâtre, il a fait du cinéma, et il a dirigé des comédiens, même une chanteuse, mais on en parlera plus tard.
Mm-hmm.
Et puis, il a fait un parcours, je dirais, exceptionnel. Moi, je suis tout à fait admiratif de ce que Daniel Mesguich a fait. Et va continuer à faire parce que c'est loin d'être terminé.
Oui, c'est important d'en parler. On va parler de l'Arlésienne, on va parler aussi du parcours de Daniel, mais avant tout, il faut savoir qu'il nous attend plein de rendez-vous tout au long de cette émission. Nous retrouverons Fabienne Amiac qui viendra nous présenter le théâtre. On va parler culture depuis sa superbe cabine speak. Nous aurons aussi Carmela Valente qui viendra pour nous présenter les sorties ciné de la semaine. Grand rendez-vous à ne surtout pas manquer, c'est important de sortir. Ouais, on a eu des échos comme quoi vous sortez pas assez. Alors, faut vous bouger un peu quand même. Nous retrouverons Eric Blaise qui viendra nous faire la chronique de la télé-story, et puis Ambrelle aussi sera de la partie pour nous parler d'une chose très intéressante, mais voilà, on en parlera en fin d'émission.
Les artistes ont la parole. La minute souvenir.
Les artistes ont la parole, à l'honneur, Daniel Mesguich, l'Arlésienne. Alors, une superbe pièce, on vous a vu jouer sur scène, c'est carrément de la performance, Daniel.
Oui, enfin, l'enjeu est de transmuter la voix en vision.
Mmh.
C'est que je cherche à faire. Ce que je cherche à faire, c'est à faire voir les voix. Il y a un critique que j'aime beaucoup qui s'appelle Leonardini,
ouais,
qui écrit dans l'Humain. Et Jean-Pierre Leonardini avait titré son article à propos de l'Arlésienne « L'oreille voit
mm-hmm. »,
référence évidemment à une célèbre formule de Paul Claudel qui était « l'œil écoute. Mmh. Et c'est exactement ce que je cherche à faire, c'est-à-dire en prenant les voix, des voix différentes pour chacun des 8 personnages de cette pièce. J'essaie de faire que, un peu comme l'Arlésienne qu'on ne voit jamais, mmh. on ne les voit pas eux non plus, je suis seul en scène et je joue chacun d'eux et l'idéal serait pour moi qu'au bout d'un certain moment, et à la fin en tout cas, les gens aient vu Frédéric, Vivette, enfin tout, l'innocent, tous les personnages de la pièce, mais comme des spectres en quelque sorte, comme des spectres auditifs.
Mmh. Et l'Arlésienne d'Alphonse Daudet, quand on regarde ce spectacle, il y a une mise en scène très particulière qui nous a, c'est vrai, subjugués. C'est ces images qui apparaissent sur un écran, sur la scène, c'est ce jeu et cette voix que vous avez, quoi. On est tous jaloux, hein Charlie, on est jaloux de la voix de Daniel Mesguich, on serait content d'avoir la même.
Oui, tout à fait, puis c'est tellement important, la voix arrive à transmettre tellement de choses de par l'intonation, de par le rythme, de par plein de choses. On arrive à faire passer plein de messages et je crois que ce que Daniel Mesguich recherche aussi et a peut-être pas trouvé encore, je sais pas.
Donc, pour en revenir à la mise en scène de Daniel, qui a eu cette idée en fait de mettre ces images qui sont animées et qui c'est vrai, imagent un peu l'histoire.
Oui, alors je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de mon épouse un petit peu, qui m'a dit, mais ce serait bien qu'il y ait quelque chose derrière, je crois me souvenir de ça, de moi-même aussi, bien sûr, mais sans minimiser du tout, nullement, parce que je les trouve admirables, les images qui sont derrière moi, je trouve que qu'elles ne sont là que pour suggérer des choses, mais pas pour les illustrer, pas pour les pointer, pas pour les dessiner, vraiment. Mmh. Ce sont des dessins, mais des dessins un petit peu comme ce qui resterait après un rêve, vous voyez, le matin, comme ça, une chose nébuleuse, et pas du tout des choses présentes. Il y a plusieurs enjeux pour moi dans cette pièce. Il y a de faire entendre certaines voix de telle manière qu'on finit par voir les voix, si j'ose dire. Mmh. Il y a ces dessins qui évanescents qui se dessinent, qui indiquent quelque chose puis qui disparaissent, enfin, mais comme une chose stylisée, enfin pas du tout réaliste. Et puis il y a les accents. Je suis très sensible quant à moi aux accents. J'adore les accents. Je trouve que c'est une des choses les plus intéressantes qui puissent exister dans les langues. Mmh. Et j'entends donc beaucoup d'accents que j'essaie de reproduire, évidemment, dans ces pièces. Parce que c'est des accents du Sud, évidemment. Alphonse Daudet est du Sud, donc ce sont des accents du Sud. Mais de quel Sud? Je ne sais pas, par exemple, le grand-père Mamaï a un accent de la campagne autour d'Arles, alors que le gardien a carrément un accent tout à fait camarguais. Vous voyez, par exemple, le patron Marc, qui est un autre personnage, a pratiquement un accent marseillais. De Marseille, vous voyez, enfin, voilà. Et au contraire, les plus jeunes, comme Vivette, qui a un très léger accent, ou comme Frédéric, qui n'en a pas du tout, perdent cet accent. Enfin, et donc, j'essaie de faire qu'ils se répondent à toute vitesse. Enfin, c'est un exercice qui voudrait être virtuose, je ne sais pas s'il l'est, mais en tout cas, je cherche à le faire. Mais d'autre part, à faire entendre des différences aussi, non seulement de timbre de voix, le berger, ah, une voix comme ça, vous voyez, il parle un petit peu comme les vieillards, comme ça, du pin fond, avec presque pas de timbre. Ça, c'est le berger, mais
le gardien parle comme ça, tout à fait dans la gorge, hein, vous voyez.
Ben voilà, etc., etc. Mais au-delà des timbres même, ce sont les accents, les différences, les nuances les plus fines d'accent qui m'intéressent.
Daniel Mesguich, à l'honneur dans Les artistes ont la parole pour l'Arlésienne. On trouve tout de suite Fabienne Amiac pour parler théâtre. Bonjour Fabienne.
Les artistes ont la parole, côté scène, Fabienne Amiac.
Bonjour cher Michel, bonjour chers auditeurs des artistes ont la parole et bonjour à l'invité du jour. Je suis allée au théâtre La Grande Comédie, une scène parisienne mythique, pour voir une pièce qui s'intitule « Adieu aux étoiles ». Je ne vous parle pas des étoiles du cirque, peut-être des étoiles d'Hollywood, mais ça, on le saura un peu plus tard. Alors, que feriez-vous si vous vous réveillez dans votre appartement à côté d'un ou d'une inconnue qui prétend être chez elle ou chez lui? En fait, deux individus, main dans la main, se réveillent en pleine nuit. Il semble qu'ils ne se connaissent pas. Dans le décor, on retrouve pourtant des cartons, des magazines, des souvenirs, à la fois féminins et masculins. Chacun pense être chez lui et chacun, effectivement, avoue ne pas connaître l'autre. La compagnie des mauvais joueurs, ce sont les comédiens qui jouent cette merveilleuse pièce « Adieu aux étoiles ». Une pièce qui a été totalement écrite par Zach Naranjo, un jeune auteur plein de talent. Parce que jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement, on ne s'attend pas du tout à cette belle histoire d'amour. Alors, les comédiens sur scène sont Gabriel Gay, Julia Squatariou, Victoria Deliance et Mathieu Gauthier. Donc je vous ai bien dit qu'au milieu de la nuit, les deux personnages, Zoé et Adam, se réveillent dans un appartement rempli de souvenirs et qu'ils ne se connaissent pas. Dans cette histoire, est-ce une question d'amnésie ? Est-ce qu'une question d'usurpation ? Il y a quand même des photos compromettantes. Il y a des quiproquos, des coïncidences. Bref, on est sur une planète inconnue pendant une heure et demie, peuplée de personnages parfois hostiles, parfois maléfiques, parfois pleins de pouvoir. Entre une nonne, une secte New Age, des agressions qui découlent d'une déclaration d'amour. Enfin, bref, c'est quand même tellement bien joué qu'on ne perd pas le fil de l'histoire, mais qu'on est loin d'imaginer la fin. Alors, je vous laisse dans cette interrogation. Allez voir cette pièce de théâtre qui s'intitule donc « Adieu aux étoiles ». Vous la retrouverez à Avignon et à la rentrée sur une scène parisienne. N'oubliez pas, adieu aux étoiles.
Merci Fabienne. Les artistes ont la parole, c'est aussi de la musique. Alors Daniel, hors antenne, on vous a posé, c'est vrai, une question sur la musique. Vous êtes très très branché musique classique.
Oui, ça ne veut pas dire que je sois, je l'espère en tout cas, imperméable à toute autre musique. J'aime beaucoup le rock, par exemple, mais évidemment plutôt les pionniers, ce qu'on appelle les pionniers du rock, vous voyez, Villanet, Gene Vincent, Chuck Berry, etc., que le rock qui est venu après, qui me paraissait plus matiné de variété, enfin, et donc ça m'intéressait un peu moins, même s'il y avait des gens géniaux, et il y a toujours sans doute des gens géniaux. La question n'est pas là, mais voilà. Et quant à la musique en général, je n'ai pas toujours préféré la musique classique, ce qu'on appelle la musique classique.
Ok, on va retrouver tout de suite, pas Mozart, mais c'est vrai que c'est un chanteur très apprécié des Français. Et puis c'est Charlie qui nous a sélectionné ce morceau, n'est-ce pas Charlie ?
Oui, tout à fait. J'ai choisi Francis Cabrel avec La Corrida. Francis Cabrel, qui normalement ne communique pas trop sur YouTube, a décidé d'apprendre aux gens ses accords de guitare et la manière dont il jouait la guitare dans ce morceau. Et je trouve ça assez original et une belle ouverture.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux ? Thank you. est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout.
Les artistes ont la parole, Talk Show Multimédia numéro 1.
Grâce à vous et merci de votre fidélité. Si vous venez juste de nous rejoindre, eh bien, sachez que vous êtes les bienvenus. Les artistes ont la parole, invité d'honneur cette semaine, Daniel Mesguich pour l'Arlésienne, que vous pouvez applaudir actuellement dans un beau théâtre, le théâtre. Des Enfants du Paradis. Et c'est un beau théâtre. Et pour voir cette superbe pièce, alors ça, on vous la recommande absolument. Vous passez un moment, c'est à peu près une heure et demie, un peu plus, Daniel ? Oui ?
Bon, un peu moins, 1h20, une chose comme ça.
1h20, où on passe un sacré moment. Et c'est vrai que quand on vient te voir, là, tu as un don, c'est un don, quoi. C'est de pouvoir jouer avec ta voix, jouer plusieurs personnages, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, la deuxième partie appartient à Charlie, donc place à Charlie dans Les Artistes ont la parole.
Bonjour les filles.
Bonjour Charlie.
Daniel Mesguich. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on a parlé d'accent, et quand on commence à retracer un petit peu le parcours, ça commence en 1966 dans la région de Marseille au Conservatoire National. Ça a été le début de votre carrière. 70, les études de philosophie à la faculté de Paris. Qu'est-ce qui à 18 ans Conservatoire National Supérieur des Arts Dramatiques de Paris. Donc là, ça commence à déjà être du solide, je dirais. Et puis, d'un seul coup, metteur en scène, acteur, direction de théâtre, des théâtres Gérard Philippe à Saint-Denis et du théâtre de la Métaphore à Lille. Beaucoup de travail déjà pour votre jeune début de carrière, on va dire.
Oui, vous savez, moi, j'ai toujours l'impression que c'est le même métier. Alors, évidemment, je vois bien qu'il y a une sorte de différence. Et qu'être acteur n'est pas être metteur en scène, monter des opéras n'est pas monter du théâtre, jouer au cinéma n'est pas jouer ni au théâtre, ni à la radio, ni... Voilà. Il y a un tronc commun à tout ça. C'est l'art dramatique, c'est l'amour de la langue elle-même, des signes, des mots, hein. Des mots, des phrases, des ellipses entre les mots et les phrases. Pas des trous en tout cas. Et je crois que c'est ça qui m'a toujours intéressé dans la vie. J'aime la philosophie, mais j'aime la philosophie quand elle s'écrit, quand elle macère dans la langue elle-même. Alors évidemment, il y a des philosophes qui le font traduire, mais même traduit, c'est encore la langue qui m'intéresse. Voilà. Et puis, je crois que les différences qu'il peut y avoir, qui existent, hein, quand je suis lecteur d'un livre. En direct, à haute voix, devant des gens, c'est un art différent de celui de jouer la comédie. Vraiment différent. Je connais des gens qui sont d'excellents lecteurs et qui sont de piètres acteurs, et l'inverse, beaucoup l'inverse. Car peu de gens savent vraiment lire et transmettre la petite voix qui est au fond de l'encrier de chaque écrivain, en quelque sorte. Mais d'un autre côté, malgré tout, je pense qu'il y a un tronc commun, malgré toutes ces choses-là. Il y a un tronc commun et c'est lui que j'ai voulu explorer dans ses moindres recoins, tout simplement. Donc, j'ai toujours fait le même métier, au fond, même si diriger un théâtre et s'occuper des problèmes syndicaux, je ne sais quoi, n'est pas exactement comme mettre en scène du Paul Claudel. Et Claudel n'est pas exactement Shakespeare, d'ailleurs, et Shakespeare n'est pas le cinéma, etc., etc. Mais malgré tout, il y a un point commun.
Vous êtes un amoureux des mots, mais sous toutes ses formes, je dirais. Pour vous, la prononciation, l'accent, on en parlait tout à l'heure. En 83, vous retournez au conservatoire comme professeur, et puis de 2007 à 2013, là, vous en devenez le directeur. Mais là, vous changez un petit peu de fonction parce que entre professeur et directeur, c'est plus du tout le même travail. Vous n'êtes pas directeur face aux élèves. C'est plutôt une gestion après de.
Oui, oui et non. Oui, bien sûr, ce n'est pas le même travail, encore une fois. Mais d'ailleurs, comme je venais de vous le dire, lire n'est pas le même travail que jouer, jouer n'est pas le même travail que mettre en scène, etc. Bien sûr. Mais non, c'est comme l'extension, en quelque sorte, du professeur que j'étais, vous voyez. C'est-à-dire que si je crois des choses plus intéressantes, plus importantes, plus prégnantes que d'autres, alors j'essaie d'imposer ces choses-là, en tout cas de militer pour. Et ce que je faisais donc en militant, si j'ose dire, pour ces choses auxquelles je croyais auprès d'élèves, eh bien, quand on m'a proposé d'être directeur, j'ai dit oui, parce que comme ça peut aller encore plus loin. C'est les structures elles-mêmes maintenant qui pouvaient être travaillées. Oui, donc vous avez raison, ça n'est pas la même chose, mais ce n'est pas la même chose parce que c'est surtout pas la même chose parce que les gens autour de moi ne voient pas ça de la même manière. Mmh. Les élèves dont j'étais le professeur me voyaient comme un professeur, mais les élèves dont j'étais le directeur me voyaient comme un directeur. Moi, je ne me voyais pas comme différent, tellement différent, en passant de professeur à directeur. Mais les autres, oui, me voyaient comme quelqu'un de différent. Je devenais la direction. Et non plus un artiste. Voilà.
Bien. Vous avez travaillé sur plus d'une centaine de spectacles pour le théâtre. Hamlet, Don Juan, pour ne citer qu'eux, mais la liste est assez, assez longue. Également pour l'opéra, avec La Flûte Enchantée. Les plus grandes scènes étrangères également, où vous êtes expatrié de la France, la Belgique, Prague, Moscou, Séoul, Pékin, Los Angeles, mais toujours avec la langue française.
Oui, non, pas toujours. J'ai monté un opéra à Pékin, par exemple, qui était en chinois. Enfin non, pardon, qui n'était pas en chinois. Avec des chanteurs chinois, mais qui avaient eux-mêmes appris phonétiquement le français. C'était les Contes d'Hoffmann. Oui, je ne parle que français. Enfin, je parle un peu anglais, comme tout le monde. Et peut-être, voilà. Ça aide parfois de comprendre vaguement, parce que je ne suis pas un très bon angliciste. Les choses qu'on a à dire ou à entendre à l'étranger, mais j'avais des traducteurs, des interprètes et des assistants qui étaient eux-mêmes interprètes. Donc, au fond, je parlais en français, et puis ensuite, je voyais les choses se faire parfois dans une autre langue. J'ai monté, par exemple, Britannicus, de Racine, à Séoul, en coréen. Mais vous savez, il y a parfois une, je ne sais pas comment dire, comme une sorte d'international du théâtre. Dans Britannicus, il y a une tirade, qui est dite par Agrippine, la maman de Néron, et qui est, je crois qu'elle est toujours, il faudrait voir avec Cyrano, mais je crois qu'elle est toujours la plus longue tirade de la littérature dramatique française. Elle fait 3-4 pages, enfin, ça n'en finit plus. Et l'actrice qui jouait Agrippine, évidemment, jouait en coréen, et moi je suivais avec le texte dans ma tête, que je connaissais par cœur, que je connais toujours par cœur ou presque, ce qu'elle disait. Et à un moment, je me suis tourné vers mon assistant, et je lui ai dit, mais elle n'a pas dit ce vers-là. Et l'assistant était tellement interloqué de ma phrase, qu'il a arrêté, il a eu l'audace d'arrêter la répétition. Il s'est tourné vers le fond de la salle où il y avait non seulement d'autres acteurs, mais même des professeurs, parce que c'était dans une école, enfin c'était l'Académie centrale de Pékin, il y avait des professeurs qui venaient assister au travail de l'honorable étranger que j'étais, et il a hurlé, il a entendu qu'elle n'avait pas dit ce vers, ce qui était hallucinant, puisque je ne parle pas coréen. Mais vous voyez, quelque chose trahissait cette actrice, dans son regard, dans sa manière de lever la main, ou je ne sais quoi, j'ai vu qu'elle ne pouvait pas avoir dit cette chose-là. Vous voyez, au milieu de je ne sais pas combien, de dizaines de vers. Il y en avait un qu'elle n'avait pas dit.
Daniel Mesguich, dans Les Artistes ont la parole à l'honneur, avec, c'est vrai, une voix envoûtante. On prend un plaisir à vous écouter. Mais on nous fait signe qu'il faut envoyer la suite et qu'il faut partir au cinéma. Donc on va retrouver Carmela Valente tout de suite pour les sorties ciné de la semaine. Bonjour Carmela.
Les Artistes ont la parole, 7e art, Carmela Valente.
Bonjour Michel, bonjour à vous, bienvenue dans ma rubrique 7e art pour les sorties de ce mercredi 15 mai. 3 ans après J'accuse, le cinéaste Roman Polanski a posé ses caméras en Suisse dans l'hôtel 5 étoiles Gestapo Palace pour tourner une comédie dramatique sous la forme d'un huis clos dans ce luxueux écrin. Dans un grand hôtel, le soir du 31 décembre 1999, à l'aube du nouveau millénaire, le destin croisé de plusieurs clients et du personnel de cet établissement situé dans les Alpes. The Palace, avec Fanny Ardant, John Cleese, Oliver Mazzucchi. France, le fabuleux voyage de Michael Pitiot avec Philippe Torreton. On apprend l'histoire de France à travers celle des hommes, mais pour la connaître vraiment, il faut remonter bien avant. Ce voyage de plus de 2 milliards d'années à travers le temps s'intéresse d'abord à l'héritage géologique de la Terre qui aujourd'hui s'appelle France. Ainsi, une immense chaîne de montagnes culminant à 8000 mètres d'altitude en s'érodant est devenue la Bretagne. Une région de lagunes aux eaux chaudes et peu profondes a donné naissance à Paris. À l'époque, l'aiguille du Midi dépassait à peine d'une immense calotte glaciaire qui, en fondant depuis quelques millénaires, a tracé les principaux fleuves de France et rempli la Manche à une époque où Brest aurait été à une centaine de kilomètres de la mer. Un retour aux sources fabuleux pour les esprits curieux. Je vous souhaite une belle semaine. Le soleil est au rendez-vous et l'été approche. Que du bonheur. C'était Carmela Valente. Pour les artistes, on la parole.
Merci Carmela. Charlie, on va retrouver un garçon que vous aimez. Si, si. C'est pas n'importe qui. C'est Mick Jagger, accompagné, accompagné de toute sa bande. Eh oui, Mick Jagger pour avec donc les Rolling Stones, titre légendaire. Angie, qu'est-ce que vous en pensez, Charlie?
Hein? Ah bah moi j'adore, mais j'adore tous les Stones. S'il n'y a pas de musical pas chez eux, que ce soit du rock ou que ce soit du slow, bah là ça c'est Angie, les Rolling
Stones. Les artistes ont la parole.
Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Try.
ont la parole.
Les artistes ont la parole. Merci de votre fidélité. Si vous venez juste de nous rejoindre, vous êtes en plein cœur de cette émission. Et c'est vrai, c'est un honneur. On le reçoit avec nous toute la semaine. C'est Daniel Mesguich, que vous pouvez applaudir actuellement au Théâtre des Enfants du Paradis, c'est à Paris, et pour une pièce qui s'appelle L'Arlésienne. Et il faut y aller, croyez-moi, vous allez passer un bon moment. On s'est bien régalé, nous, dans Les Artistes ont la parole. Vous venez juste de rejoindre l'émission, Charlie, ils viennent juste de rejoindre l'émission.
Ah, c'est pas bien, mais bon, ils ont la possibilité quand même de pouvoir voir en replay l'émission. Sur Les Artistes ont la parole ou même sur lesartistesontlaparoletv.com avec la vidéo. Oui, comme ça vous pourrez découvrir le visage de notre invité Daniel Mesguich aujourd'hui. Un grand plaisir de recevoir ce grand monsieur. Autour d'une quarantaine de films. Donc là, on est passé.
Oui, je crois que c'est moi quand même.
On va dire 38, 39, allez.
Alors, en mélangeant cinéma et télévision.
Voilà. Michel Deville pour Dossier 51, Costa Gravas, Claire de Farm, François Truffaut avec L'Amour en fuite. Ça, c'est des grands, grands classiques dans lesquels vous avez... dans lequel on vous voit et dans lequel vous officiez au niveau du cinéma. Et puis aussi le théâtre, bien sûr, parce que ça, c'est disons, un petit peu les fondations de votre carrière, avec l'écriture de vos propres spectacles et aussi sous la direction de M. Robert Hossein. Comment ça s'est passé, Daniel ?
Avec Robert ? Oui. Oh, très bien, moi j'adorais Robert Hossein. Dans les milieux que je pouvais fréquenter à la même époque, il n'était pas bien vu. C'était du théâtre trop grand public, trop facile, enfin, etc. Et je fréquentais des intellos purs et durs qui me disaient « Oh non, Hossein, enfin, franchement. » Mais moi j'adorais cet homme. Et souvent je me disais, en l'écoutant, que derrière une naïveté apparente, brut de décoffrage, enfin, il parlait comme ça, tu fais chier, enfin voilà. Mais derrière ça, il y avait une finesse d'analyse, une intelligence, une acuité immense. Et je trouvais que c'était passionnant de travailler avec lui. D'autre part, il engageait dans les spectacles dans lesquels je jouais, en tout cas, dans les deux spectacles que j'ai fait avec lui, il engageait une centaine d'acteurs. Donc je pouvais rencontrer toutes sortes de gens passionnants, très différents les uns des autres. Et voilà, je garde un souvenir merveilleux de ces deux passages que j'ai pu faire chez Hossein.
Avec dans quel...
C'était la mort de Danton et la Révolution, non ? Enfin, c'est un peu le même spectacle, c'est le même genre de spectacle.
Robert Hossein, paix à son âme, on s'en souvient, c'est, pour ne rien vous cacher, c'était ma toute première interview, c'était il y a très très longtemps. C'est un garçon qu'on a regretté, d'ailleurs on lui avait fait hommage lors de son départ, Robert Hossein, qu'on regrette, mais il est toujours là, il nous surveille, il n'est pas parti.
C'était un homme d'une immense générosité, d'autre part. Un jour, un acteur avait des lunettes, il me dit « Ah, tu ne peux pas avoir des lunettes, merde, enfin, il ne faut pas avoir des lunettes !» Et il a répondu, mais pardon, mais je ne vois rien sans mes lunettes. Ah, oh, il a sorti des billets de sa poche et il lui dit, va t'acheter des verres de contact tout de suite. Et il lui a donné plein d'argent pour qu'il aille voir un médecin et qu'il se fasse faire des verres de contact. Comme ça, pour rien, pour qu'il n'ait pas de lunettes, merde, enfin. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, bien sûr, il y en a 2000. Mais c'était un homme entier, formidable pour ça. Et comme ce milieu, le milieu du théâtre, du cinéma, n'est pas toujours entier, il n'est parfois plus chafouin, plus fourbe, c'était une espèce de lumière au milieu de tout ça, quoi. Moi, j'aimais beaucoup cet homme, vraiment.
Les artistes ont la parole. Daniel Mesguich a l'honneur, que vous pouvez applaudir dans L'Arlésienne. Et pourquoi s'être concentré d'ailleurs sur L'Arlésienne d'Alphonse Daudet ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans les textes, Daniel ?
Je peux vous le raconter anecdotiquement. D'abord, j'avais un ami, je dis j'avais parce qu'il est décédé, il n'y a pas très longtemps, mais enfin bon, voilà, c'était Jean-Claude Malgoire, le chef d'orchestre, génial chef d'orchestre, magnifique, un puits de science sur la musique. Et j'étais en train de monter un spectacle à la Comédie-Française, je crois que c'était La Vie parisienne, et il me téléphone un matin très tôt en me disant « Daniel, il faut absolument que je te voie, j'ai quelque chose à te proposer ». J'ai dit « Jean-Claude, je travaille en ce moment sans arrêt ». Il me dit « Tu fais bien une pause ». Oui, à 4 heures, il y a une pause. Allez, je viens te voir à la pause. Je descends au bar qui est en bas de la Comédie-Française, il arrive et il me dit « Je vais diriger l'Arlésienne de Bizet ». Car Bizet a écrit la musique de scène de cette pièce et au fond il reste surtout la musique de Bizet, plus encore aujourd'hui que la pièce de Daudet qu'il était censé illustrer. Et il me dit je vais diriger l'Arlésienne, est-ce que tu voudrais être le récitant? Je lui dis mais Jean-Claude, moi tout ce que tu veux je le fais, j'adore travailler avec toi. Et il me donne le texte et je le feuillette un peu comme ça et je vois que c'est une pièce de théâtre. Je lui dis attendez, récitant, oui mais ça c'est une pièce de théâtre avec 8 personnages. Il me répond, ah tu te démerdes, hein, et il s'en va. Et donc j'ai été le récitant, alors j'ai compressé comme je pouvais la pièce en jouant un petit peu déjà les personnages. Et je crois que le récitant, si j'ose le dire moi-même, a eu au moins autant de succès que tout le reste de l'orchestre. C'est-à-dire que, et du coup, je me suis dit, bien des années plus tard, ah, mais je me souviens de cette chose que j'avais faite, et si je le faisais vraiment, toute la pièce, sans résumer, sans compresser, toute la pièce, sans forcément, d'ailleurs, elle n'y est pas, la musique de Bizet, mais que je m'amusais à jouer tout le monde et à faire entendre ce que je vous disais tout à l'heure, à faire entendre les voix de telle manière qu'on les voit, les voix. Et voilà, mais ça, l'idée vient de Jean-Claude Malgoire, au départ. D'autre part, en travaillant, je me suis rendu compte que Daudet n'a peut-être pas, Alphonse Daudet, vous savez, on dit les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, enfin, voilà. Mais c'est tout ce qu'on dit et on s'en fiche un peu d'Alphonse Daudet, c'est un auteur aujourd'hui qui est considéré comme mineur, voire un peu à l'écart comme ça de la grande littérature. Daudet n'est pas effectivement d'ailleurs ni Shakespeare, ni Racine, ni Chateaubriand. Et pourtant, en travaillant, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de pureté, de netteté, d'efficacité, de beauté aussi et d'émotion dans une pièce comme l'Arlésienne, qui en fait pratiquement une tragédie classique. Une tragédie antique même, je dirais, c'est comme de Sophocle ou de l'Euripide, une tragédie antique en Provence. Mais c'est quand même avec autant de rigueur et autant de netteté et de fatalité que les grandes tragédies de la littérature. Et je me suis dit que finalement, Daudet n'était pas si mineur que ça. Voilà.
Daniel Mesguich, à l'honneur dans Les Artistes ont la parole. On va retrouver sans plus attendre Eric Bless qui va nous parler de la télé story. Bonjour Eric.
Les Artistes ont la parole. Story TV, Eric Bless.
Bonjour Michel, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Eric Bless pour TV Story. Poursuivons 1990. La 5 recherche de nouveaux actionnaires et Hersant et Hachette rentrent au capital. Sur Antenne 2, Élise Lucet et Paul Amar présentent le journal du soir. Toujours sur la 2, Ardisson accouche de Télézèbre en fin d'après-midi le samedi. Christine Bravo, elle, lance 1000 Bravo, réalisé par Serge Moati sur FR3. M6, tournée vers la modernité, propose Culture Pub, présenté par Anne Magnin et Christian Blachasse. Magazine sur la publicité, la mode et les médias. Pour la 100e de Ciel Montmardi, Christophe de Chavannes nous réserve une surprise. Ça sera une fausse bagarre à l'antenne. Et ceci relance l'émission. À la semaine prochaine.
Merci Eric. On a appris plein de choses grâce à Eric. On apprend plein de choses grâce aussi à Daniel Mesguich. C'est un plaisir de vous écouter, Daniel, n'est-ce pas, Charlie?
Non, tout à fait, tout à fait. On va continuer à parler avec Daniel de ses élèves. Dans la liste des élèves.
Mais avant, il y a quand même une belle... avant on va retrouver la pause musicale. la pause musicale incontournable qui a été sélectionnée par Daniel Mesguich, c'est Claude Nougaro. On va se diriger du côté de Toulouse avec Sing, Sing, Song. Allez, montez le volume, c'est dans Les Artistes ont la parole.
Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson colle à la peau. Quand le jour se lève sur Sing Sing, par contre on s'inquiète pour le temps. Le temps qui reste à tirer à Sing Sing, y a de quoi se faire des cheveux blancs. Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans, oui mais pas derrière des barreaux. Oh, Sing Sing, oh, Sing Sing, ta chanson dure un peu trop. Quand le jour se lève sur Sing Sing, et que c'est le dimanche qu'on attend, on va voir l'orchestre de Sing Sing, il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dansant, sur la chaise il fit trois petits sauts. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson chauffe un peu trop. Quand la nuit tombe sur Sing Sing, on revoit nos amours dans le temps. On se dit qu'on sortira de Sing Sing quand nos poules n'auront plus de dents. Pense-t-elle encore à nous en ce moment, ou font-elles brûler nos photos? Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson a le cœur gros. Ainsi meurt la chanson de Sing Sing. Jusqu'à demain, évidemment.
Pour la parole, Talk Show Multimédia numéro 1.
Grâce à vous et merci de votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, soyez les bienvenus. Il serait quand même temps, effectivement, car on arrive presque à la fin de cette émission. On n'a pas vu le temps passer. À l'honneur, dont les artistes ont la parole, Daniel Mesguich, que vous pouvez applaudir actuellement dans l'Arlésienne. Ça va se dérouler jusqu'à quand, Daniel?
Ah, plus beaucoup. Jusqu'à la fin du mois.
Jusqu'à la fin du mois. Donc, faut vous dépêcher. Et après, peut-être un petit passage sur Avignon ou une petite tournée nationale?
Non. Tournée nationale, c'est pas impossible. Avignon, non. On ne prend pas Avignon cet été.
Mais peut-être une tournée nationale pour l'Arlésienne.
Oui. Ça, c'est envisagé, en tout cas. Et on pourra essayer. C'est un spectacle assez facile, léger. On peut essayer de faire ça. Mais...
Donc, rendez-vous à ne pas manquer. On va rappeler quand même l'adresse du site, parce qu'il y a un superbe site à aller voir, c'est le site de Daniel Mesguich. Il est quand même bien achalandé, félicitations. On trouve tout, on trouve tout, tout le parcours, toute la biographie, il y a tout. Et en plus, il est bien fait, même Charlie, il est resté scotché dessus.
Ah oui, moi je suis resté scotché, et puis là le fait d'avoir en direct Daniel Mesguich en interview, c'est un bonheur. Daniel, il y a eu des élèves, mais avec des noms très connus, Richard Anconina, Sandrine Kimberlin, Vincent Pérez, Philippe Théroton, et alors moi j'ai été étonné, Mylène Farmer. Qu'est-ce qu'on apprend à Mylène Farmer quand on est Daniel Mesguich?
Alors d'abord, l'honnêteté m'oblige à dire que c'était il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, je ne peux pas vieillir, Mylène Farmer. Mais enfin, non, mais c'était il y a longtemps, c'est-à-dire qu'elle n'était pas au conservatoire et elle n'était pas dans le cours que j'ai en ce moment, l'école que j'ai en ce moment, qui est une école, moi je crois, formidable. Évidemment, c'est moi qui parle, mais vraiment formidable. Je ne parle pas de mon enseignement à moi-même, bien sûr, je n'oserais pas avoir cette outrecuidance ou cette fatuité, mais il y a d'autres professeurs magnifiques, vraiment. Et les élèves, cette année, je trouve, sont admirables, sont vraiment merveilleux. Et nous allons d'ailleurs le 24 juin présenter un gros spectacle avec tous les élèves au Théâtre Paris-Plaine, le 24 juin. Voilà, donc Mylène, c'était il y a très longtemps. Je l'ai revue entre-temps. On a un jour discuté un petit peu comme ça de ce temps-là, mais j'avoue que j'ai un peu oublié. Je me souviens en tout cas qu'elle n'était pas du tout Mylène Farmer, enfin, qu'elle était jeune, qu'elle ne savait pas qu'elle chanterait un jour, je crois en tout cas, qu'elle était brune. Voilà. Et qu'elle était débutante, enfin. Mais sans doute déjà avec une vraie personnalité, évidemment. Évidemment.
Des voix pour la radio aussi, mais les voix encore. On en a eu un petit extrait tout à l'heure, mais il y a des choses qui vous ont marqué plus que d'autres dans des voix pour la radio, par exemple.
J'ai beaucoup travaillé à un moment de ma vie, je ne le fais plus, à France Culture. J'ai beaucoup enregistré de textes, et notamment avec un monsieur qui est décédé et que j'aimais beaucoup, qui était un grand homme, je trouve, et sans doute un écrivain, un dandy génial de l'écriture, qui était Jean Montalbetti. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jean Montalbetti, qui a été une des voix majeures, enfin une des personnes majeures de France Culture à une certaine époque, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, je crois, maintenant. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui, voilà. Mais non, je n'ai pas de choses spéciales à vous dire. Je sais que, comme j'aime beaucoup la pensée, la philosophie, enfin, sans être moi-même un philosophe, bien sûr, mais je sais goûter, je crois, enfin, le plus que je peux, en tout cas, je le fais, les textes les plus difficiles de la philosophie. Donc, on m'a souvent demandé aussi de lire à haute voix des textes de Spinoza, de Lévinas, de Derrida, enfin, parce que d'autres acteurs étaient tellement étrangers à tout ça qu'ils ne savaient pas le faire, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est plutôt ça que j'ai aimé faire. Mais j'aime tout, j'ai enregistré énormément pour les éditions Frémaux, vous savez, qui est une espèce de collection de voix de l'histoire. Et j'ai beaucoup enregistré pour Frémaux, et j'ai fait plein de choses pour eux, enfin notamment un énorme coffret de Proust à la recherche du temps perdu que j'ai fait à moi tout seul. Il n'y a qu'un narrateur, c'est moi. Et alors que d'autres l'ont fait à plusieurs, voilà. Donc ça n'en finissait plus, c'était très long, mais c'était magnifique, c'est merveilleux évidemment, c'est génial.
Daniel Mesguich est avec nous dans Les Artistes ont la parole, que vous pouvez applaudir actuellement au théâtre Les Enfants du Paradis, c'est à Paris, et c'est dans l'Arlésienne. On va retrouver tout de suite Ambrelle en duplex de Nice. Bonjour Ambre.
Les artistes ont la parole, l'instant sexo de Ambrelle.
Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Ce sera aujourd'hui une chronique drôle puisque je l'ai intitulée Le bêtisier du pénis. Et oui messieurs, 2 minutes entières dédiées à ce que vous avez entre les jambes. Il y a des histoires drôles et d'autres beaucoup moins, vous verrez. D'abord, est-ce que vous savez qu'un pénis pouvait se fracturer? Oups, je pense que oui. On l'appelle le faux pas du coït, même si cet accident est relativement rare. Figurez-vous qu'au Japon, il y a fréquemment des fractures du pénis suite à des masturbations trop fortes. Autour de la Méditerranée, la plupart des cas sont dus à des hommes essayant de dissimuler une érection. Et aux États-Unis, la cause la plus fréquente est un rapport sexuel fort dans lequel l'homme rate sa cible, frappant l'os pubien de la femme. Les postures à risque sont l'andromaque, quand la femme est au-dessus, et la levrette. Je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ont séché les cours de sciences naturelles, qu'il n'y a pas d'os dans le pénis, même si on parle bien de fracture. Ce sont des corps caverneux. En tout cas, ça fait très très mal. Enfin, il paraît. Le pénis gonfle et devient couleur aubergine. Et il faut tout de suite aller aux urgences. Vous avez 24 heures maximum pour éviter des séquelles irréversibles. Allez, des anecdotes drôles à présent, pour vous remettre de vos émotions. Quel est le plus long pénis du monde ? Eh bien, c'est celui de la baleine bleue, avec ses 2,40 m. Et quel est le plus bruyant? Eh bien, il appartient à un minuscule insecte qui, quand il se frotte le pénis contre son abdomen pour appeler sa femelle, atteint les 99 décibels, soit autant qu'un cri humain. Le plus petit pénis chez l'homme ? 0,99 cm. Ah, oui. Par contre, je ne sais pas qui il est, d'où il vient. Il a certainement voulu conserver son anonymat. Et on peut le comprendre. En revanche, on connaît celui qui a le plus grand pénis du monde. Enchanté, c'est un Américain, il s'appelle Jonah. 24 cm au repos et 34 cm en érection. Alors lui, il a décliné les propositions qui lui ont été faites par le monde du X. À présent, je vous parle du pénis le plus fort. C'est à Hong Kong. Un monsieur a réussi à soulever 113 kg à 60, 61 cm de hauteur. Autre record au Japon, la plus longue séance de masturbation. Ah oui, je vous en parlais en début de chronique. Il a tenu 9h58 minutes. Et enfin, je termine avec la plus longue éjaculation en distance. C'est vraiment un truc de mec, ça. 5 mètres 71. Allez, tous à vos entraînements. C'était l'info sexy de Ambrel. À la semaine prochaine, je vous embrasse.
Merci Ambre. Charlie est toujours avec nous.
Toujours
fidèle au rendez-vous. Dès que Ambre arrive, ça signifie quelque chose, Charlie.
Ouais. Ça signifie la fin de l'émission. Et ça, on en est triste. On a un super invité. Il va falloir réinviter Michel.
Ah ben on va le réinviter parce que on lui a pas dit, mais cette émission est la sienne. Voilà. Cette émission est la vôtre, Daniel. Vous revenez quand vous voulez. Je suis sûr que vous avez encore plein de choses très intéressantes à nous raconter. Là, on s'est pour le coup cultivé, comme vous pouvez le constater. On a appris plein de choses, Charlie. Hein.
Oui, beaucoup de choses, des anecdotes, des choses sur le théâtre, des choses sur le cinéma, et puis la carrière de Daniel Mesguich qui continue avec l'Arlésienne, et puis la tournée qu'il faut aller voir si vous êtes en province, n'hésitez pas, vous allez passer certainement une très très bonne soirée, j'en suis sûr.
Quelque chose à rajouter, Daniel Mesguich, pour la route ?
Tout dépend de vous, non, allez-y vous.
Allez, on lui pose une question à la manière de Vanessa.
Allez.
Qu'est-ce que pour vous l'amour ?
Oh là là, mon Dieu, c'est une question énorme. L'amour, ce serait cette chose très contradictoire, a priori, qui consiste à aimer quelqu'un. Mais vous voyez, quand je dis j'aime quelqu'un, le mot « quelqu'un » est son complément d'objet. Eh bien, aimer quelqu'un comme un sujet et pas comme un objet. C'est très difficile, mais c'est sublime.
Le message est passé. D'ailleurs, nous avons écouté un superbe blanc, chose qu'on ne fait pas trop en radio, mais des fois, c'est sûr que le blanc est la partie apparente aussi de la partition musicale. C'est aussi plein de choses. Non, c'est voilà. Cette émission est déjà terminée. C'était un plaisir, un honneur de vous recevoir, Daniel Mesguich. Vous revenez quand vous voulez dans cette émission. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver, Charlie, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est une très bonne idée. On se retrouve la semaine prochaine et merci encore Daniel Mesguich d'avoir consacré ces minutes en notre compagnie. C'était vraiment un grand, grand plaisir et vous revenez quand vous voulez.
Merci à vous. Merci.
Cette émission est la vôtre. On va se quitter avec un 45 tours. Je sais que vous aimez les 45 tours, Charlie. Hein ?
Oui. Ah, c'est bien parce que ça rappelle mes débuts à la radio.
Ça craque. Ouais. Et on n'a pas frotté. Falco, souvenir des années 80 avec Dark Commissar. Sie sagt, Baby, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein
mein Funkverständnis, ja das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt trinkt. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen sie
Radine dumm,
oh, oh. Schau, schau,
der Kommissar geht um,
oh, oh. Herr Kommissar, hey, wanna buy some stuff, man? Huh? Did you ever rap that thing, Jack? Is there a rap that's to the beat? Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied.
Radine dumm,
oh, oh, oh. Schau, schau,
der Kommissar geht um,
oh, oh, oh.